Au cœur d'un immense champ de béton planté d'enseignes délavées et de panneaux publicitaires, quatre pneus mouillés glissent sur la route d'une zone industrielle. Le reflet d'un énième rond-point s'accroche au miroir du rétroviseur, puis rétrécit en une tache soudain disparue. Droit devant, par-delà le balayage des essuie-glaces, une forme grise devient nette. Sous le déluge, l'embranchement est annoncé par un panneau de fer ruisselant, Amazon.fr Logistique. Jean-Baptiste Mallet, bonjour. Alors on va vous brancher votre micro, c'est le micro 3 Bernard.
Bonjour.
On vous accueille sur ce salon du livre d'expression populaire de critique sociale. Vous êtes l'auteur de ce livre dont je lisais les premières lignes. Ça s'appelle « En Amazonie, infiltré dans le meilleur des mondes ». C'est une enquête sur les conditions de travail au sein des entrepôts d'Amazon. Alors on va rappeler quand même qu'Amazon, c'est un site internet à la base de distribution de biens culturels, livres, CD, DVD, etc. Maintenant, c'est un site qui vend toutes sortes d'objets, hi-fi, électroménager. Et vous êtes fait embaucher comme manutentionnaire finalement au sein d'Amazon. Alors si vous avez utilisé cette technique d'infiltration, cette technique journalistique, c'est parce qu'il y a une difficulté à accéder à l'information en fait.
Oui, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que donc Amazon ne communique pas et communique très peu. En fait, les rares communications d'Amazon, ce sont des communications dites corporate, donc des communications d'entreprise qui ciblent des journalistes dont ils savent par avance qu'ils vont faire des sujets extrêmement connivants. Et donc Amazon cultive le secret autour de ses activités industrielles. Et pour donner un exemple, quand Arnaud Montebourg a inauguré le troisième entrepôt français, la presse locale n'a pas eu le droit de visiter les entrepôts avec le ministre pendant l'inauguration. Donc en fait, moi au début, je n'avais pas songé tout de suite à m'infiltrer, je voulais simplement faire un reportage, donc je me suis rendu aux abords de l'entrepôt logistique de Montélimar et j'ai voulu tout simplement discuter avec les ouvriers comme j'avais pu le faire jadis quand je suis venu à Hénin-Beaumont en discutant avec les travailleurs de Faurecia, l'équipementier automobile ou d'autres ouvriers. En tant que journaliste, je suis souvent amené à me rendre aux abords d'usines ou d'activités industrielles. Et là, à ma grande stupéfaction, les travailleurs étaient absolument terrorisés à l'idée de parler. C'était pas simplement quelques éléments qui n'avaient pas envie de parler à la presse, c'était la totalité des travailleurs qui étaient vraiment effrayés à la vue d'un journaliste et qui m'expliquaient clairement, pour les plus loquaces, en trois mots, que parler c'était prendre le risque d'être licencié. Donc pour moi, quand la porte est fermée, j'essaie de passer par la fenêtre. Donc j'ai pris tous mes jours de congé, j'ai aménagé du temps libre pour faire cette enquête et je suis tout simplement allé vivre quelques temps à Montélimar pour pouvoir m'infiltrer, travailler, et c'est une manière aussi de quelque part d'honorer toutes les pros qui ont pu m'influencer grandement quand j'étais un peu plus jeune. Je suis pas bien vieux, mais je pense notamment aux enquêtes de Gunther Wallraff ou même plus vieux à la jungle d'Upton Sinclair qui avait écrit ce livre célèbre sur les conditions de travail dans les abattoirs à Chicago, ou encore le Quai de Vigan d'Orwell. Enfin, il y a beaucoup de livres comme ça de pros incarnés qui m'ont beaucoup influencé. Donc pour moi, c'est tout de suite devenu évident en fait qu'il fallait tout simplement aller y travailler pour comprendre.
Alors, vous racontez dans le livre l'embauche, qui est déjà toute une histoire. Mais quand vous arrivez pour la première fois à passer les portes de l'entrepôt, là, c'est quand même un choc. C'est le gigantisme de cet entrepôt, cette immense pieuvre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça ?
Oui, il faut comprendre que c'est typiquement donc une activité de consommation qui est propre au XXIe siècle, qui exploite les potentialités d'Internet et qui représente un monde que nous ne connaissons pas encore totalement, un monde qui vient, que j'ai essayé donc d'appréhender, j'ai essayé de donner des informations aux lecteurs, mais c'est un monde nouveau puisque la quantité de marchandises présentes dans un entrepôt logistique Amazon, qui peut faire pour les plus grands d'entre eux jusqu'à 130 000 mètres carrés, c'est absolument labyrinthique. Ce sont des marchandises qui s'étalent à perte de vue. Donc ce sont des zones qui sont gardées comme des bases militaires en fait. En Allemagne, à Badersfeld, vous avez des clôtures de fils de fer barbelés, il y a des sociétés de sécurité privées sous-traitantes qui s'occupent de la surveillance des 90 entrepôts dans le monde. Et donc ce climat très particulier, quand on y entre et qu'on y pénètre, dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Donc même les plus grandes bibliothèques qu'on a pu visiter, même les plus grands supermarchés, les plus grands hypermarchés, les plus grands centres commerciaux ne comportent pas autant de marchandises qu'un entrepôt logistique. Donc cette accumulation folle de marchandises, c'est bien évidemment ce qui saisit. Et ensuite, dans un second temps, c'est le désordre et le chaos organisé, puisque la logique de rangement logistique d'Amazon, c'est ce qu'on appelle en anglais le chaotic storage, donc le rangement chaotique. En fait, Amazon ne va pas ranger les chaussures avec les chaussures, les t-shirts avec les t-shirts, les livres avec les livres. Ils vont ranger là où il y a de la place pour optimiser l'espace de rangement. Puisque si vous devez stocker des centaines de milliers de marchandises, si vous les classez et que vous les organisez comme ça, forcément, vous allez devoir prévoir de la place s'il y a des gros mouvements brusques dans les volumes. Or là, en dispatchant un peu partout et en organisant tout ça par l'informatique, eh bien vous vous retrouvez dans une situation où seule la machine sait où sont rangées les choses et l'être humain ne le sait plus en fait. Donc il y a même une perte de repères sensoriels dans ce désordre qui est pour moi intéressante d'un point de vue littéraire.
Alors vous avez cité les entrepôts en Allemagne. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs entrepôts en France. Donc vous êtes infiltré dans celui de la Drôme. Il y a aussi un entrepôt dans le Loiret. Et puis, depuis un peu plus d'un an, me semble-t-il, il y en a un près de chez nous, hein, dans Chenor, près de Douai, à Lovin-Planck. On en reparlera, si vous voulez, un petit peu plus tard. On va d'abord quand même aborder ce qui fait le cœur de cette enquête, c'est les conditions de travail des ouvriers. Alors, hyper physique avec cette exigence d'un dépassement de soi constant, c'est ça qui caractérise ce travail ?
Alors, le travail est extrêmement pénible. Je suis toujours un peu obligé de préciser que, parce que ça, j'ai eu souvent des objections, j'ai moi-même fait beaucoup de petits boulots. En fait, je n'ai pas fait d'école de journalisme, donc je sais ce qu'est le monde du travail. Je ne l'ai pas découvert chez Amazon, mais effectivement, le travail est extrêmement pénible et il a ses spécificités. C'est une pénibilité qui a ses propres spécificités. C'est une pénibilité qui est physique, évidemment. Moi, pour ma part, donc, j'étais en équipe de nuit, donc j'y suis allé pendant la période de pointe, la période des fins de fin d'année, en fait, là où Amazon fait son plus gros volume de chiffre d'affaires. Donc, en fait, c'est une violence qui est physique, mais qui est également psychologique, parce qu'il y a tout un conditionnement que l'on pourra décrire après dans le détail. Mais ce qui était important pour moi dans ce travail, c'était de montrer la pénibilité de ce travail. C'était l'objectif numéro un de ce livre, c'est de dire, regardez, quand vous cliquez sur Amazon, ça se fait pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est pas comme dans la publicité où le colis dort sur le paillasson, il n'y a plus qu'à ouvrir la porte. Non, il y a des gens qui travaillent, en fait, le travail existe, il n'a pas disparu avec l'économie numérique, parce qu'on nous vend souvent une économie numérique désincarnée, celle du 21e siècle, un peu à la Steve Jobs, hein, on l'a vu, où finalement le design aurait pu faire oublier voilà, qu'il y a toujours des hommes et des gens qui triment dans la soute. Donc pour moi, c'était déjà important, un, de rendre visible ce travail, deux, de montrer en quoi ce travail était extrêmement différent du travail qui a cours dans le commerce de proximité. Parce que on nous dit souvent, et ça a été le cas quand l'entrepôt a ouvert dans la région, ici il y a un an, on nous dit « mais c'est formidable, Amazon crée des emplois ». Or, ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, c'est quels emplois étaient créés. Et quand on regarde le ratio, on s'aperçoit en réalité qu'Amazon, eh bien, c'est le concurrent du commerce de proximité. Que ce soit une librairie, que ce soit un disquaire, que ce soit un magasin qui vend des articles de sport ou des cannes à pêche, vous vous retrouvez donc avec une activité économique qui en concurrence une autre. Et en réalité, quand on regarde les études, on s'aperçoit que pour le même chiffre d'affaires, par exemple les livres, pour le même volume de livres vendus, il faut 18 fois moins d'emplois chez Amazon que dans un commerce de proximité. Donc en fait, ce que je montre dans mon livre, c'est que l'activité Amazon détruit de l'emploi sur tout le territoire. Alors dans des zones ravagées comme la Drôme ou à Lovin-Planck où il y a un fort taux de chômage, bien évidemment les élus locaux sont contents d'avoir quelques emplois. En réalité, c'est surtout le territoire national qu'il y a en fait davantage d'emplois détruits. Et donc la pénibilité, oui, je l'ai expliqué tout à l'heure, le désordre est organisé par informatique et donc il faut bien dire les choses comme elles sont. Les entrepôts logistiques d'Amazon, ce sont des usines au sens le plus traditionnel du terme. Alors bien évidemment, on ne fabrique pas des marchandises, mais on fabrique des colis de carton. Donc en fait, la matière première, c'est la marchandise qu'il faut enrober. Et tout l'objectif en fait de la chaîne de montage Amazon, c'est de prélever de la marchandise et de l'enrober de carton. Et donc pour cela, il y a un système extrêmement rationalisé de pointe qui donc bien évidemment dépasse par sa puissance industrielle et ses process le commerce de proximité. Quand vous êtes dans un magasin, vous devez attendre le client, vous devez passer un petit coup de balai, faire en sorte que ce soit joli, agréable. Là, vous êtes dans un entrepôt, c'est du travail à la chaîne, minuté, cadencé, et donc c'est la spécificité d'Amazon. tout est organisé par la matrice informatique. Votre productivité est calculée en temps réel. Et moi, donc, par exemple, pour ma part, j'étais picker. Picker, c'est celui qui va dans les entrepôts pour chercher la marchandise en fait, qui est stockée. Vous êtes téléguidé en fait, par une petite scanette, une petite machine. Si l'ordinateur vous dit eh bien, il faut que tu ailles prélever une partition de Chopin, eh bien, il faut marcher jusqu'à la rangée en question. Les bornes Wi-Fi en fait, envoient les informations et en donnent aussi au contremaître qui vous surveille en temps réel. L'entrepôt est immense, vous avez l'impression d'être seul, mais en réalité, le contremaître à plusieurs centaines de mètres sait exactement où vous êtes, à quelle vitesse vous travaillez, il détecte les temps de pause suspects. Il faut savoir que la cadence est mesurée, mais que chez Amazon, il n'y a pas de cadence fixe. On vous demande tous les jours d'aller plus vite que la veille, en fait. Donc c'est une course au rendement maximum, et on s'aperçoit que même les gens qui sont en CDI ne font que quelques années, car le travail est tellement pénible en fait, qu'ils finissent par lâcher.
Alors, dans le Monde diplomatique du mois de novembre, il y avait un article qui complétait un petit peu cette
oui.
enquête.
Mon reportage en Allemagne, oui.
Voilà, donc c'était un reportage sur l'entrepôt Amazon, enfin un des entrepôts Amazon en Allemagne. Et il y avait cette réflexion d'une ouvrière qui disait oui, pour tondre la pelouse dehors, ils ont acheté des chèvres auxquelles ils ont posé des badges et des codes-barres. Alors, justement, c'est introduit. Bien l'idée de la robotisation de l'ouvrier, quoi.
Oui, ça scandalisait les ouvriers allemands parce qu'effectivement, ils ont badgé les chèvres avec les mêmes badges que portent les travailleurs. Moi, je portais ce badge aussi, c'est un badge vert avec une photo, un nom, un code barre. Et en fait, quand on commence à travailler, effectivement, on doit scanner son propre code barre en fait, sur la machine. Et après, effectivement, le travail s'apparente vraiment à un travail d'homme-robot. En fait, on n'a absolument aucune autonomie dans son travail. Et j'ai publié également, après ce reportage dans Le Monde diplomatique, une interview de 2 pages dans L'Humanité, qui est une interview extrêmement intéressante. C'était la première fois au monde qu'un ancien ingénieur Amazon s'exprimait, un manager. Parce qu'on a maintenant de temps en temps des syndicalistes, des gens qui sont ce qu'on appelle les associates, donc des ouvriers en bas de l'échelle. Mais là, c'était un cadre qui témoignait en fait du fonctionnement. Et lui, c'était très intéressant, avait une expérience dans l'automobile, donc dans l'industrie automobile et dans l'industrie plastique. Et il expliquait que pour lui, Amazon était en train de fracasser complètement même la logique industrielle qu'il avait pu connaître dans l'automobile, parce qu'en tant qu'ingénieur, pour sa part, dans l'automobile, on lui demandait bien évidemment de faire augmenter la productivité et de créer de la richesse qui allait ensuite être injectée dans le circuit économique global qu'on connaît tous, mais on lui demandait de penser son travail et de penser avec les hommes qu'il avait sous ses ordres pour créer en fait une harmonie. Là, ce qui l'a le plus choqué, c'est qu'en fait, lui-même, en tant qu'ingénieur, en fait, dans le cadre d'Amazon, se retrouvait, et ce n'est pas péjoratif pour les contremaîtres, mais se retrouvait à faire un boulot de contremaître en fait, et à devoir fliquer seulement, les travailleurs, les yeux braqués dans son ordinateur, et il n'avait plus aucune marge d'autonomie. Donc quand on lit en fait cet ingénieur témoigner des conditions de travail, on comprend que pour toute la chaîne c'est la même chose. Il y a un système de surveillance qui est absolument orwellien en fait, même entre les cadres, avec une logique qui est celle de en fait chez Amazon on parle de faire remonter les anomalies. Quand vous avez un comportement suspect, en fait c'est très bien vu de faire remonter des anomalies. Alors remonter des anomalies, ça peut être par exemple dans une allée un carton qui va boucher une entrée. Vous devez non seulement le déplacer, mais en plus aller voir le chef en disant attention, il y a un carton qui bouche une entrée, parce que ça peut ralentir la commande du client. Et donc chez Amazon, l'idéologie maison vous dit qu'il faut tout faire pour le client. Mais un problème, une anomalie, ça peut être aussi 2 camarades qui discutent. Parce que si 2 camarades discutent, eh bien ça veut dire que la productivité est impactée et que donc le client, lui, chez lui, attend. Là, je vous cite la logique Amazon. Et donc, il faut aller voir le contremaître ou le manager et lui expliquer que 2 camarades sont en train de discuter.
Voilà. Des salariés qui sont aussi vus comme de potentiels chapardeurs, quoi.
Tous. La totalité des individus qui pénètrent l'enceinte logistique Amazon sont, à la sortie, passés par des portiques. En fait, il y a des fouilles aléatoires. Alors, aléatoires, tout simplement, parce qu'on ne peut pas techniquement fouiller tout le monde, ça serait trop long. Mais... en fait, une fois sur 2, une fois sur 3, une fois sur 4, ça va dépendre des ratios. Des fois, ça va être 2 ou 3 fois d'affilée. Vous passez votre carte sur un petit boîtier et là, vous avez une ampoule rouge ou verte. Vous ne savez jamais si vous allez être fouillé ou pas, mais vous êtes considéré comme un chapardeur potentiel. Et donc, on va vous passer à la raquette métallique pour vérifier que vous n'avez rien volé.
On est toujours en compagnie de Jean-Baptiste Mallet, auteur de ce livre « En Amazonie, infiltré dans le meilleur des mondes ». On va faire une petite pause musicale et on vous retrouve dans un instant.
À tout de suite.
En direct et en public du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale, toujours sur le studio mobile de Radio PFM, donc n'hésitez pas à venir nous voir, on est juste derrière le beffroi, donc dans la cour, juste à côté de la buvette. Et on est toujours en compagnie de Jean-Baptiste Mallet, auteur de ce livre « En Amazonie, infiltré dans le meilleur des mondes ». C'est une enquête sur les conditions de travail au sein de ce géant de la vente en ligne Amazon. Alors on parle maintenant avec vous du syndicalisme au sein d'Amazon. Vous avez rencontré lors de votre enquête des syndicalistes en fait.
Oui, alors il faut en parler voilà, en plusieurs temps parce qu'effectivement à Montélimar j'ai rencontré des syndicalistes mais qui étaient totalement muselés par la peur en fait qui règne chez Amazon quand on est syndicaliste. Mais après la sortie de ce livre, je me suis rendu en Allemagne où là pour le coup, grâce en fait aux initiatives répétées du syndicat Verdi, donc allemand qui est le syndicat de la grande distribution, qui a décidé en fait de ne plus laisser ces immenses terres en déshérence, je veux parler donc des des emplois de la logistique, hein, qui sont de plus en plus nombreux, puisque le commerce en ligne explose aujourd'hui. Les jeunes générations achètent de plus en plus sur Internet. Donc le syndicat Verdi a débuté en fait une stratégie pour s'implanter en fait dans ces entrepôts. Et en ce qui concerne Amazon, c'est en fait une lutte absolument formidable qui a démarré. Ils ont commencé il y a 3 ans, en fait, ils étaient une quinzaine de syndicalistes chez Verdi, isolés, en proie à de grandes difficultés. Plus de 2 ans après, ils sont, donc là c'était les derniers chiffres lors de la dernière grève, plus de 1400 syndiqués à tenir des piquets de grève pour eh bien, tout simplement demander à Amazon de respecter la cogestion à l'allemande, puisqu'Amazon en Allemagne n'en veut pas. Et appliquer aussi les grilles en fait de salaire qui sont décrétées par Lander, et ça aussi Amazon applique sa grille maison. Donc il y a beaucoup de revendications, il y a une stratégie, bon, qui malheureusement serait trop longue en fait à développer, mais il y a une stratégie de combat extrêmement subtile et brillante qui a été mise en place par Verdi. Et en France, il y a aussi des raisons maintenant d'espérer, parce que depuis un an, la CGT s'est un peu réveillée. Ça a été difficile. C'est difficile quand on a un embryon d'organisation syndicale dans un contexte, dans une entreprise qui est vraiment hostile au syndicalisme, de s'implanter. Je vais vous donner plusieurs exemples, hein, mais il y a un syndicaliste, Clément Jamin, qui, la CGT a d'ailleurs déposé plainte et ça sera jugé, mais qui a été fouillé arbitrairement en fait sur son lieu de travail, tout simplement parce qu'il était, voilà, parce qu'il était syndicaliste. Il a refusé cette fouille. Il y a la dernière fois qu'il y a eu une grève en juin dernier, le lendemain, tous les travailleurs ont été convoqués individuellement, ils étaient une centaine, voilà, pour rendre des comptes, donc ils ont été soumis à des pressions. Et là, je suis très heureux parce que récemment, les syndicalistes allemands et français se sont rencontrés à Chalon-sur-Seine. Ils ont pu échanger, fraterniser, échanger des techniques, évoquer des revendications communes. Et là, il y a une plateforme qui est en train de se mettre en place, en fait, internationale, enfin, au moins à l'échelle européenne. Et donc, on voit les choses bouger peu à peu. Je pense que ça sera long. Ça sera difficile et compliqué pour eux, mais là ça va dans le bon sens. Et de toute manière, même si les travailleurs parfois, quand ils entrent dans l'entreprise, adhèrent quelque peu, parce que c'est tentant, à ce néo-paternalisme qui est organisé par Amazon et que je décris dans mon livre, ils finissent toujours tôt ou tard par réaliser en fait où ils sont. Mais il faut le dire, pour un travailleur précaire qui arrive chez Amazon et qui vient par exemple d'un supermarché, dans les premiers temps, il peut être séduit, parce qu'Amazon va non seulement lui offrir des bonbons, le cajoler, le tutoyer, mais lui offrir aussi un collectif paternaliste extrêmement bien organisé, avec des soirées, des instants de convivialité en fait, qui n'existent pas forcément dans d'autres univers du précariat. Et donc, dans un premier temps, ça peut être tentant pour certains de se dire « bah oui, Amazon, c'est ma nouvelle famille ». Le slogan d'Amazon, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est « work hard ». Have fun, make history. Donc travaille dur, amuse-toi et écris l'histoire. Et ce amuse-toi, bon, moi je ne l'ai pas trouvé très, très amusant, les syndicalistes non plus, mais pour certains, voilà, il faut bien voir que Amazon joue sur les affects aussi des gens. Et donc je relatais notamment dans le monde diplomatique que parfois il y a des journées organisées où les managers fixent des thèmes et où les travailleurs ont le droit de venir déguisés en fait au travail, donc déguisés en clown, en basketteur, en sorcière selon les thématiques. Bon, ça peut voilà, nous terrifier ou nous faire sourire, mais en réalité il faut bien voir que pour des gens qui sont vraiment isolés, qui par leurs conditions de travail et la pénibilité du travail sont en rupture en fait de lien social, et bien dans l'entreprise peuvent retrouver une convivialité que la société ne leur offre plus. Donc c'est pour ça que dans les alternatives aussi, il ne faut jamais oublier qu'une alternative sociale, ça ne peut s'élaborer que sur la convivialité, parce que sans elle, de toute manière, voilà, des sociétés comme Amazon resteront toujours plus fortes.
Une société qui ne paye pas d'impôts en France, en fait.
Alors qui en paye très peu, en fait, comparé à son volume, à son chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'en fait, Amazon, c'est donc un montage, hein, d'optimisation fiscale. Quand vous achetez un livre sur Amazon, l'argent va directement au Luxembourg, en fait. Et c'est d'ailleurs indiqué sur la facture. Si vous commandez, vous recevez une facture donc, qui est estampillée au Luxembourg. Donc tout cet argent, il part directement au Luxembourg. Et en fait, il y a tout une mécanique qui se met en marche, et en réalité Amazon.fr Logistique n'est qu'une toute petite filiale en fait du groupe Amazon, qui est chargée d'assurer l'opération en elle-même. Donc en fait c'est comme un sous-traitant de la méga machine Amazon, Et donc, ils vont ensuite déclarer des impôts et payer des impôts sur cette petite activité logistique, mais en réalité, le volume d'affaires travaillées est énorme. Donc, ce qui voilà, a poussé le fisc français à réclamer 198 millions d'euros à Amazon. Et Amazon a aussi de gros problèmes au Royaume-Uni parce que beaucoup de politiques et de citoyens européens sont exaspérés par cette pratique d'optimisation fiscale. Mais il faut le dire, pour l'instant, ça ne bouge pas vraiment. Il semblerait qu'il n'y ait pas une volonté politique forte et unanime de toute la classe politique européenne pour régler ce problème.
Alors justement, les politiques, là, on va parler plutôt des politiques régionaux et locaux aussi. Souhaitaient créer de l'emploi, donc favorisent par le biais de subventions l'arrivée d'Amazon. A quand même cette exception près dans le Nord-Pas-de-Calais où il y a quand même eu une alerte qui a été lancée par les libraires, on en reparlera après, mais un petit peu sur le rôle des politiques régionaux et locales.
Alors en fait, il faut le dire très simplement, jusqu'à présent, lors des premières inaugurations d'entrepôts en France, et ça a été notamment le cas à Montélimar dans la Drôme, il y avait une sorte d'union sacrée entre le Parti Socialiste et l'UMP, voire d'autres forces politiques pour donner donc des subventions publiques à l'emploi à Amazon. Et là, les lignes commencent un peu à changer parce qu'on commence à comprendre que Amazon, c'est pas forcément simplement de la création d'emplois, mais que ça en détruit aussi dans le commerce de proximité. On a vu avec la fermeture de Virgin, par exemple. Alors, qui pour certains ne représente pas un modèle social formidable. On va pas commencer à pleurer les destructions de supermarchés, mais il faut voir que c'est un modèle de société, le supermarché culturel. Amazon en est un autre. Quel est le pire ? Après, ça, c'est à chacun de le décider. Mais ce qui est certain, c'est que des politiques commencent à comprendre qu'Amazon, ce n'est pas simplement de la création d'emplois. Et donc, effectivement, la région Nord-Pas-de-Calais, qui était un peu en pourparlers, n'a finalement pas accordé de subventions publiques à Amazon. Mais Christian Poiré, le maire d'hiver droite de Lovin-Planck, lui, pour le coup, a accompagné l'implantation d'Amazon dans sa commune. Il est même allé, alors ça c'est absolument hallucinant, donc je vous invite à aller regarder ça si vous êtes à Lovin-Planck, il est même allé jusqu'à donner une rue, la rue qui mène à l'entrepôt, il l'a appelée la rue Amazon. Il a fait voter ça, donc visiblement par son conseil municipal. Et quand les journalistes lui ont dit « Mais pourquoi, monsieur le maire, avez-vous donné comme nom à Amazon, cette rue Amazon ?» Il a dit « Mais parce qu'Amazon aime bien. » Voilà. Ça vous donne une idée de sa docilité.
Jean-Baptiste Mallet, votre livre, 15 euros.
Oui.
On tape Google Jean-Baptiste Mallet en Amazonie, amazon.fr, 14,25 €.
Absolument. Alors, il faut savoir que c'est un choix d'Amazon, hein, c'est pas le mien, c'est le choix d'Amazon de commercialiser mon livre. Ça a été un coup de maître de leur part parce que là aujourd'hui je suis très content, j'ai plus d'une demi-heure pour m'exprimer, mais quand vous êtes invité sur une radio d'État et que vous avez 3 minutes pour parler et que sur les 3 minutes du coup vous ne parlez que 30 secondes parce que le reste du temps c'est se justifier du fait que le livre soit vendu par Amazon, bon, ils ont réussi à me faire passer pour quelqu'un qui entretiendrait une contradiction, mais il faut savoir qu'en fait pour un auteur c'est absolument impossible aujourd'hui de s'opposer en fait au fait que son livre soit vendu par Amazon. Günther Wallraff l'a fait puisque je suis allé en Allemagne rencontrer les syndicalistes d'Amazon, mais j'ai également rencontré à Cologne Günther Wallraff qui lui en fait m'expliquait que quand il a découvert les conditions de travail en Allemagne, il a vraiment souhaité que ses livres soient retirés. Il a fait pression sur son éditeur qui est un ami et qui rechignait un peu mais qui a fini par accepter. Et en fait, in fine, plusieurs semaines après, Amazon se fournissait chez des grossistes et arrivait encore à avoir les livres de Wallraff au catalogue. Moi, en ce qui me concerne, je préfère bien évidemment que les gens achètent mon livre en librairie et de préférence en librairie indépendante, mais je n'ai pas de problème avec ça dans le sens où j'ai même reçu des courriers, en fait, des lettres de gens qui me disaient « Voilà, moi j'étais un fidèle client d'Amazon ». J'ai acheté votre livre sur Amazon, je commandais plus de 300 € par mois, et maintenant, depuis que j'ai lu votre livre, je ne commande plus. Donc si même les fidèles clients d'Amazon ont accès à cette information, l'important c'est que ça existe. Après, encore une fois, c'est le choix d'Amazon, et je suis pas gêné aux entournures par ça, en fait.
Jean-Baptiste Mallet, merci. Je rappelle que ce livre en Amazonie, Infiltré dans le meilleur des mondes, vous le présentez sur le salon du livre d'expression populaire et de critique sociale toute la journée à Arras. Vous êtes dans le coin droit quand vous rentrez dans le stand des auteurs depuis le beffroi. Je signale quand même que vous avez aussi travaillé sur d'autres questions, notamment l'extrême droite française. Hein, et puis vous avez été aussi co-auteur d'un film, Main Brune sur la ville. Donc ça fera un petit peu le lien avec un débat qu'on aura tout à l'heure à 15h sur ce studio mobile. Dernière question, vos prochains travaux, sur quoi vous travaillez en ce moment
Là, je me vide un peu la tête en écrivant de la fiction, mais je pense que je partirai sur un sujet agricole. J'ai des petites idées, des choses un peu complexes, mais c'est en train de se mettre en ordre. Mais je vais travailler, ça c'est sûr.
Merci Jean-Baptiste Mallet, et puis bon salon.
Merci.